il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
Marie Casadebé.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal en français facile présenté avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Marie, bonsoir à tous.
À la une, la chute d'un pont sur une autoroute italienne à Gênes dans le nord-ouest du pays. Il y a au moins 30 morts et le bilan final pourrait être beaucoup plus lourd. Le ministre de l'Intérieur promet de tout faire pour connaître le nom des responsables.
Ce soir, on en sait plus sur le conducteur qui a lancé sa voiture sur des passants à Londres, devant le Parlement britannique. L'homme a 29 ans, il vient des Midlands, dans le centre de l'Angleterre. Dans cette région, trois lieux sont actuellement fouillés.
La Turquie a décidé de ne plus acheter des appareils électroniques américains. Le président turc accuse les États-Unis d'être responsables de la crise financière que son pays traverse.
Un journal.
Le journal en français facile.
En français facile.
À Gênes, en Italie, les équipes de secours et leurs chiens sont toujours à la recherche de survivants au milieu des voitures, des camions écrasés et de plusieurs tonnes de béton.
À 10h, temps universel ce matin, une partie d'un pont qui traversait une autoroute s'est effondrée. Il est tombé de 45 mètres de hauteur. Le dernier bilan est d'une trentaine de morts. Il y a aussi bien sûr des blessés graves. Le récit d'Anicel Jabri.
Un tremblement de terre, c'est d'abord à ça qu'ont pensé certains habitants proches des lieux. C'était le bruit assourdissant de la chute. Plusieurs témoins ont aussi évoqué la foudre qui s'est abattue sur le pont, les précipitations intenses. Mais selon les toutes premières évaluations techniques, ce n'est pas le mauvais temps qui est responsable de l'affaissement, mais bien des défaillances structurelles. Un rapport technique rédigé en 2009 soulignait déjà une intense dégradation du viaduc. Des travaux de consolidation avaient été entamés en 2007. Sur cet ouvrage construit dans les années 60, très emprunté par les Italiens comme par les touristes étrangers, je prends l'engagement devant les Italiens d'aller au bout pour déterminer les responsabilités. Je ferai tout pour avoir les noms et les prénoms des responsables passés et présents, déclaration du ministre de l'Intérieur. Matteo Salvini qui a aussi émis cette menace voilée s'il y a des engagements extérieurs qui nous empêchent de dépenser l'argent que nous devons mettre pour la sécurité, il faudra se poser la question de continuer à les respecter. Allusion transparente à la contribution italienne au budget européen. Silence des responsables européens sur ce sujet, des dirigeants qui ont fait part de leur solidarité.
À Londres, le scénario ressemble à celui de l'année dernière, une voiture lancée contre des cyclistes et des piétons devant le Parlement britannique.
Ce mardi, vers 7h30, heure locale, trois personnes ont été blessées. Des images diffusées par la chaîne britannique BBC montrent un véhicule qui fonce sur un passage piéton, puis vers deux policiers, avant de toucher une barrière. Le seul occupant de la voiture a été arrêté. Il est détenu pour soupçon d'actes terroristes. Les précisions de Sophie Miller à Londres.
Selon de nouvelles informations communiquées par les autorités, le suspect est de nationalité britannique et il est âgé de 29 ans. Les médias anglais avaient affirmé cet après-midi que cet homme venait de la région des Midlands, dans le centre de l'Angleterre. Et la police a donc annoncé il y a environ une heure qu'actuellement, trois propriétés dans cette région sont en train d'être fouillées. L'une d'entre elles se trouve dans la ville de Nottingham et deux autres à Birmingham. Dans la ville de Nottingham, la présence policière a été renforcée pour rassurer les habitants, ont précisé les autorités. Le véhicule du suspect a voyagé de Birmingham à Londres dans la nuit de lundi. En arrivant dans la capitale britannique, la voiture, une Ford Fiesta grise, a été stationnée aux alentours d'Oxford Circus. Puis, au petit matin, le suspect s'est rendu dans le quartier de Westminster, à proximité du Parlement. À l'heure qu'il est, il s'obstine toujours à ne pas coopérer avec la police. Il est interrogé depuis ce matin dans un commissariat du sud de Londres. Sophie Miller, Londres, RFI.
Au Venezuela, Marie, un général a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir participé à la tentative d'attentat contre le président Maduro il y a 10 ans.
10 jours.
Il y a 10 jours, pardon, oui, le temps passe vite, mais pas à ce point-là quand même.
En tout, 14 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. D'autres responsables militaires, mais aussi un député. Selon le porte-parole des Nations Unies, près de 2 300 000 Vénézuéliens ont quitté leur pays à cause du manque de nourriture et de médicaments. La plupart a rejoint d'autres pays d'Amérique du Sud, comme la Colombie, l'Équateur, le Pérou ou encore le Brésil.
Au Mali, toujours aucun résultat officiel n'a été publié, mais le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta affirme que le président sortant a été largement élu.
Le porte-parole de celui qu'on appelle Ibeka a précisé qu'il se basait sur les résultats qui ont été rassemblés par l'équipe de campagne du candidat. Son rival, Soumaïla Cissé, a dénoncé hier des fraudes, des tentatives de manipulation de l'élection présidentielle de dimanche. Mais selon la mission d'observation de l'Union européenne, il n'y a pas eu de fraude, mais des irrégularités. Les règles n'ont pas toujours été bien respectées.
Cette fois, l'Aquarius n'a attendu en mer que 24 heures. Malte a autorisé le navire humanitaire à accoster, à entrer dans l'un de ses ports.
Les 141 migrants qui ont été sauvés par l'Aquarius en Méditerranée seront, eux, accueillis par 5 pays différents, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne.
Un journal en français facile.
La livre, la monnaie turque, a repris de la valeur ce mardi sur les marchés. Elle a gagné 6% par rapport au dollar.
C'est mieux que ces derniers jours, mais la Turquie est loin d'être sortie de cette crise financière. Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, il n'y a qu'un seul coupable à la situation, Donald Trump, le président des États-Unis. Il a donc annoncé que son pays boycotterait les appareils électroniques américains. La Turquie n'achètera donc plus ses produits. Les précisions d'Anand Lower, notre correspondante en Turquie.
En pleine tempête financière, Recep Tayyip Erdogan garde le cap. Non seulement il ne cède pas face aux sanctions américaines, mais il surenchérit en annonçant des contre-représailles. Dans un discours célébrant les 16 ans au pouvoir de son parti, l'AKP, le président turc a annoncé la mise en place d'un boycott des appareils électroniques américains. S'ils ont des iPhones, de l'autre côté, il y a des Samsung, a lancé le chef de l'État, alors que les produits de la marque Apple, dont l'iPhone, sont très utilisés en Turquie, y compris par Recep Tayyip Erdogan lui-même. Le président turc choisit donc la confrontation plutôt que l'apaisement, alors que la monnaie nationale, la livre, ne montre aucun signe de redressement après sa chute brutale des derniers jours. Sur les réseaux sociaux, les partisans d'Erdogan diffusent des appels au boycott de produits en provenance des États-Unis. Même de grandes entreprises turques se joignent au concert anti-américain. La compagnie aérienne Turkish Airlines et le groupe Turk Telekom ont annoncé ces dernières heures leur décision de ne plus acheter d'espace publicitaire à des sociétés américaines. Anne-Laure Istanbul, RFI.
Au Proche-Orient, si le calme continue jusqu'à ce mercredi matin, le ministre israélien de la Défense promet d'ouvrir à nouveau le seul point de passage de marchandises vers la bande de Gaza.
La zone de pêche au large du territoire palestinien sera également élargie. Depuis plus d'un mois, Israël bloque le passage des marchandises à Kerem Shalom, y compris parfois les livraisons de carburant. Depuis jeudi dernier, une fragile trêve est observée. Les violences se sont arrêtées grâce à l'intervention de l'Égypte et des Nations Unies.
Après Amazon en Angleterre, c'est au tour de Facebook d'acheter des droits télé du football européen. Le réseau social va pouvoir diffuser des matchs.
Plus exactement, le championnat d'Espagne. Il sera accessible gratuitement sur Facebook en Inde et dans 7 pays. Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Népal, Maldives, Sri Lanka et Pakistan. L'accord porte sur 4 saisons. L'opération va coûter 90 millions d'euros au réseau social, selon la presse espagnole. À Madrid, les explications de Pierre Chaperon.
C'est ce que l'on appelle un accord gagnant-gagnant. D'un côté, Facebook met un pied dans le monde des droits télé du football. De l'autre, le championnat d'Espagne s'assure une plus grande visibilité dans un pays où ce sport n'est pas roi. Résultat, ce sont les 380 matchs de la saison de la Liga qui seront diffusés sur le réseau social durant 4 saisons. Facebook enrichit ainsi son offre de contenu et le championnat d'Espagne continue son expansion sur les réseaux sociaux. Objectif avoué pour la Liga, rattraper son retard en termes de communication sur le championnat d'Angleterre. Cet accord permettra également de toucher un nouveau public, plus jeune et plus à même de consommer du football gratuitement sur les nouveaux supports numériques. On estime à 350 millions le nombre d'utilisateurs de Facebook en Inde. Quoi qu'il en soit, en développant son offre sur les réseaux sociaux, le championnat d'Espagne n'a qu'un objectif, devenir un acteur majeur du sport mondial. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
La suite de ce journal en France est facile, le temps de tourner la page pour Fernando Alonso. 2018 sera la dernière saison sur les circuits de Formule 1.
L'Espagnol, double champion du monde, a annoncé qu'il arrêtait cette discipline, mais peut-être pas les sports mécaniques. Dans un communiqué, son équipe, McLaren, parle de l'envie de Fernando Alonso de connaître de nouvelles aventures. Nos prochaines aventures, Sylvie, ce sera demain à la même heure pour un autre journal en français facile. Merci beaucoup.
Merci à vous, je n'y manquerai pas. Merci, bonne soirée. Merci de votre fidélité.
Et ce journal est à retrouver sur notre site savoir avec un s.rfi.fr. Le retour de l'actualité, c'est dans 50 minutes sur la radio du monde.